France Musique.
Quel scandale! L'Amérique contre Adams.
Des dizaines de policiers, des barrières métalliques dressées pour encadrer les manifestants, un hélicoptère qui tourne dans le ciel. Nous sommes à New York en octobre 2014. Non pas devant le siège de l'ONU, mais sur la Columbus Avenue, siège du Metropolitan Opera, le Met, comme on dit, l'une des plus prestigieuses scènes lyriques au monde. Que se passe-t-il ? De mémoire, personne n'a jamais vu ça. Depuis quelques jours, des centaines de manifestants hurlent leur colère devant le théâtre. Certains, volontairement assis en fauteuil roulant, par solidarité avec la victime, disent-ils. Des groupes de prières publiques se forment. On assiste à une véritable tempête dans tous les médias, journaux, TV, réseaux sociaux, dont l'effet de loupe décuple la portée de l'événement. Comme l'intervention de cette femme devant le Met, qui sort de ses gonds. « Jamais plus je ne remettrai les pieds ici. Aujourd'hui, c'est cet assassinat qu'on met en scène. Mais demain, ce sera quoi ? L'exécution de James Foley ?» Sur certaines pancartes, on peut lire « Honte au Met, honte à Peter Gelb, son directeur ». L'un des interprètes a même reçu des mails de menaces. S'il chante le rôle que l'on sait, il sera assimilé au meurtrier. Rien que ça. Certains lobbies sont montés au créneau. La ZOA, l'Organisation sioniste d'Amérique, exige des quatre principales fondations juives qui financent le Metropolitan Opera qu'elles retirent leur soutien financier. Ça ne s'arrête plus. Alors que s'est-il passé au juste ? Dans une tribune, deux femmes se sont distinguées. Le terrorisme ne peut pas être rationalisé ou compris. Il ne peut en aucune façon être toléré comme vecteur d'une expression politique ou d'une doléance. Malheureusement, c'est ce que fait John Adams dans son opéra, La mort de Klinghoffer, salissant par là même la mémoire d'un homme droit et bon. Oui, car c'est bien un opéra qui est source de toute cette agitation. Et l'homme droit et bon dont parlent ces deux femmes, Lisa et Ilsa, c'est leur propre père, Léon Klinghoffer. Elles s'insurgent contre cet opéra, dont leur père est devenu le héros malgré lui, cette mort de Klinghoffer de John Adams que le Met de New York vient de reprendre. Et pour compléter le tout, l'ancien maire de New York, le républicain Rudolph Giuliani, a aussi jugé opportun de venir mettre son grain de sel. Il a déclaré qu'il a beau être fan d'opéra depuis des lustres, monter celui-là est une grave erreur, car il présente une vision déformée de l'histoire. Or, on s'en souvient, c'est ce même Giuliani qui, en 1995, avait expulsé Yasser Arafat d'un concert du Lincoln Center au moment où le chef de l'autorité palestinienne était venu recevoir le prix Nobel de la paix. Giuliani, alors maire en exercice de New York, avait qualifié Arafat de meurtrier et de terroriste. John Adams a-t-il écrit un opéra pro-palestinien, comme tous ses détracteurs le prétendent avec violence dans la rue et dans les médias ? Est-ce vraiment un opéra terroriste ? Un opéra antisémite ? Faut-il l'interdire définitivement ? 29 ans auparavant, en octobre 1985, un commando palestinien mené par Mohamed Abbas, alias Abu Abbas, en mal de publicité, a pris en otage les passagers du bateau Achille Lauro lors d'une croisière en Égypte. Léon Klinghoffer, un Américain paraplégique, fut froidement abattu d'une balle dans la tête parce que juif. Et son cadavre, jeté par-dessus bord dans son fauteuil roulant, ne fut jamais retrouvé. Cinq ans plus tard, John Adams et la poétesse Alice Goodman s'emparent de cette tragédie pour en faire un opéra qui résonnera sur fond de conflit israélo-palestinien. L'idée leur a été soufflée par leur complice, le metteur en scène Peter Sellars, connu pour son engagement social et politique. De fait, la mort de Klinghoffer dépasse le sort du malheureux otage américain. Alice Goodman y évoque le destin des Juifs et des Palestiniens, le massacre de Sabra et Shatila, la création d'Israël. Il est aussi question de djihad, d'allégeance aux frères musulmans. Adams et Goodman se connaissent bien. Anciens condisciples à Harvard, ils ont déjà signé ensemble le livret de leur premier opéra, Nixon in China, consacré à la visite du président Richard Nixon à Mao Tse-Tung en 1972. Un sujet politique, certes, mais plus anecdotique, d'une actualité moins brûlante, mais traité néanmoins avec mordant et ironie, et qui fut bien reçu par le public. Commande pour ce deuxième opéra de John Adams est donc passée par cinq théâtres. Brooklyn Academy of Music de New York et Los Angeles Festival aux États-Unis, et en Europe, le Festival de Glyndebourne, l'Opéra de Lyon et le Théâtre de la Monnaie de Bruxelles. John Adams, compositeur américain de 44 ans, qu'on présente un peu rapidement comme un héritier de Philip Glass, est surtout connu d'un public d'initiés. Son opéra, Nixon in China, a renouvelé le genre lyrique à sa façon. Adams a su marier musique savante et saveur pop, minimalisme et grand orchestre, synthétiseur et grande voix d'opéra, en réaffirmant sa foi dans une écriture résolument tonale. Adams ne s'encombre pas avec l'avant-garde européenne. Rien qu'en cela, il est une figure atypique de la musique contemporaine, une tendance peu goûtée par certains en Europe. C'est le degré zéro de la musique, une sorte de produit typiquement américain comme le Coca-Cola, Disneyland et le Nouvel Ordre International. Au secours, fustige Télérama. Tout le contraire, admire Simon Rattle. Sa musique donne constamment l'impression de se mouvoir dans l'espace, me faisant m'imaginer, tandis que je l'écoute, à bord d'un avion léger, volant plutôt rapidement et à faible altitude. On trouve dans la plupart de ses meilleures pièces un mélange d'extase et de tristesse. On le voit, les débats autour de John Adams évoluent autour de sa musique et sont seulement d'ordre esthétique. La première mondiale de la mort de Klinghoffer a lieu en Europe au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles le 19 mars 1991. Peter Sellars signe la mise en scène et Mark Morris la chorégraphie. On applaudit tiédement. Ce nouvel opéra suscite moins la méfiance qu'une indifférence polie. Ce qu'on remarque surtout, c'est l'étonnant parallélisme entre le sujet de l'opéra et l'actualité du moment, c'est-à-dire la première guerre du Golfe qui conduit les États-Unis à chasser Saddam Hussein du Koweït. À part ça, aucune polémique en vue. Les haines entre juifs et palestiniens font surface ici ou là, parfois violemment, mais l'opéra dans son ensemble distancie les passions en les transformant en méditation, note l'envoyé spécial du New York Times, John Rockwell. Trois semaines plus tard, c'est l'Opéra de Lyon qui accueille la première en France, sous la direction de Kent Nagano. Nous sommes le 13 avril 1991. À nouveau, aucune vague. L'œuvre baigne dans un climat de gravité, voire de ferveur pour le moins attachant, écrit Jacques-Emmanuel Fussnacker, dont la critique porte surtout sur Peter Sellars, qui parasite le spectacle sans discontinuer. Si Goodman et Adams envisagent de poursuivre leur excitante collaboration, sauront-ils se défaire de cet encombrant partenaire, s'interroge-t-il. Rien de plus. Comme l'Opéra de Lyon est coproducteur du spectacle, on en profite pour enregistrer l'opéra à l'auditorium Maurice Ravel. Kent Nagano dirige l'orchestre de l'Opéra de Lyon, le London Opera Chorus et un casting de fidèles. Ne reste plus à la mort de Klinghoffer qu'à franchir l'Atlantique. C'est à New York, le 5 septembre 1991, que le premier scandale éclate. Férocement. Le New York Times revient sur sa critique et, sous la plume d'un autre journaliste, Edward Rothstein, on peut lire que c'est une évocation sympathique de la première intifada. Les terroristes palestiniens sont porteurs de conscience historique, de sentiments et de revendications complexes, mais il n'y a pas de point de vue israélien, dissous dans un mépris pour les juifs américains et pour quiconque serait dépourvu de prétentions mythiques à l'adresse du monde. Les critiques pleuvent de tous côtés, indigestes, confus, pontifiants et le mot est lâché, antisémite. La réponse de la librettiste Alice Goodman, de confession juive, mais convertie alors tout récemment à la religion anglicane, ne se fait pas attendre. Quiconque assiste à cet opéra sans préjugés comprendra qu'il fait honneur au destin du peuple juif et à la mémoire de Léon et Marilyn Klinghoffer. À ceux qui se préparent à ne voir et n'entendre que ce qu'ils veulent voir et entendre, rien de ce que l'on peut dire n'est d'aucune utilité. Harvey Lichtenstein, président de la Brooklyn Academy of Music, la soutient. Je ne pense pas que le travail soit antisémite. Je crois que les Klinghoffer sont traités avec beaucoup de sympathie et de dignité. John Adams, lui, ne peut que répéter qu'il n'a pas pris parti, que la mort de Klinghoffer est comme une longue méditation douloureuse, une œuvre quasiment religieuse inspirée des passions de Bach, en dépit des scènes de violence, reflet de la réalité. En plaçant face à face juifs et palestiniens, il a fait très attention à respecter une stricte égalité de traitement. Il veut aider au processus de réparation. Peine perdue, ce 5 septembre 1991. On ne l'entend pas. Au lieu d'apporter des solutions, l'opéra ne fait qu'exciter les passions. Deux actes et cinq scènes de la mort de Klinghoffer s'ouvrent par un prologue, auquel s'enchaînent tout de suite deux chœurs, le chœur des Palestiniens en exil et le chœur des Juifs en exil. Deux chœurs de durée rigoureusement identiques. Sur une douce, triste, sublime mélodie au lancinant mélisme, un chœur de femme palestinienne, en fa mineur, entonne « La maison de mon père a été rasée en 1948 lorsque les Israéliens sont passés par notre rue. » Les Juifs en exil, eux, adressent un chant d'amour à la fille de Sion. Puis, l'action à proprement parler commence. Les Klinghoffer et les terroristes vivent l'action au présent, tandis que le capitaine et les autres survivants la racontent au passé. L'opéra refuse toute représentation réaliste de l'action. La réflexion domine, la méditation, le souvenir. Et on préfère les récits des faits aux faits eux-mêmes. À cinq reprises, John Adams et Alice Goodman glissent des chœurs, sibyllins, métaphysiques, à la façon du chœur dans la tragédie grecque ou dans les passions de Jean-Sébastien Bach. Le chœur de l'océan, le chœur de Hagar, l'épouse d'Abraham, le chœur du désert, le chœur du jour, et le plus terrible d'entre eux, qui clôture le premier acte, le chœur de la nuit, sur une basse obstinée, constituée d'interjections véhémentes. Élie va revenir, les Juifs le pensent, condamner l'Antéchrist, juger le Messie. Les morts, les bons et les mauvais seront séparés. Le monde se consumera et sera régénéré. J'ai peur pour moi, pour moi, pour moi. Thank you. Adams et Goodman entrent au plus profond de chaque personnage, y compris ceux des terroristes, à qui ils accordent une part d'humanité en leur réservant des pages poignantes, comme l'air de Mahmoud avec basson obligé, « Now it is the night ». Léon Klinghoffer, lui, ne chante qu'un seul air, accompagné par des cuivres, dans lequel il apostrophe violemment ses bourreaux. Des vieillards au mur des lamentations sont poignardés dans le dos. Vous riez, vous versez de l'essence sur les passagères du bus de Tel Aviv et vous les brûlez vives. Vous vous foutez pas mal de la cabane de votre grand-père, de ses moutons et de sa chèvre et de la terre qu'il a épuisée. Vous vous plaignez toujours de vos souffrances, lui répond un terroriste. Mais partout où les pauvres se rassemblent, ils trouvent des juifs en train de s'empâter. L'Amérique est un gros juif, chante un terroriste au deuxième acte. Peu après, une gymnopédie notée « Aria of the Falling Body » accompagne la chute dans les eaux de la dépouille de Léon Klinghoffer sur des cordes affligées. L'opéra se referme sur les mots de Marilyn Klinghoffer, l'épouse ravagée par la douleur, qui reproche au capitaine de s'être montré complaisant envers les terroristes. Elle l'invective, puis confie au spectateur « Ils auraient dû me tuer, moi. Je voulais mourir. » L'usage des synthétiseurs organise un espace acoustique où les chœurs résonnent avec effroi ou quiétude, tandis que l'orchestre, riche en vent, se meut en rythme chaloupé, en phrases faites de longues gammes ascendantes et descendantes, organisées par un contrepoint rigoureux. Air, récit, chœur mêlent noirceur, espoir, cris de révolte et résilience, parenthèse religieuse, impression marine, référence au livre. Aucun parti n'est pris. Chacun s'exprime avec son cœur. Mais la communauté juive de New York reproche à l'équipe John Adams, Alice Goodman, Peter Sellars d'avoir osé aborder le sujet et surtout d'avoir romantisé les terroristes en leur donnant la parole. Elle reproche même une beauté musicale qui semble créditer leur motivation. Devant la virulence des attaques, le Los Angeles Festival et le Festival de Glyndebourne annulent les représentations prévues. Un comble tout de même. Ne sommes-nous pas en démocratie ? Aux États-Unis d'Amérique, pays de la libre expression ? Un an plus tard, en novembre 1992, l'Opéra de San Francisco retente l'expérience. C'est un succès au box-office, mais la presse s'enflamme à nouveau. L'histoire se répète. Des groupes de pression juifs et des manifestants forment des piquets devant le théâtre. 11 septembre 2001, la tragédie du World Trade Center attise à nouveau les haines. La mort de Klinghoffer devient un opéra injouable aux États-Unis. Boston renonce à reprendre l'ouvrage. En 2011, l'Opéra de Saint-Louis, au Missouri, fait fi des polémiques et le remet à l'affiche. L'ovation est immédiate et John Adams monte sur scène pour l'accueil d'un héros sans ambiguïté. Le Metropolitan Opera de New York imagine-t-il la partie gagnée et le scandale émoussé lorsqu'il le programme pour sa rentrée en 2014 ? Son directeur Peter Gelb pense que c'est l'œuvre contemporaine la plus forte de ces 25 dernières années. Il invite les spectateurs à poster leurs commentaires en ligne. Voyez-le, puis décidez. Le décor, conçu par Tom Pye, évoque le mur qui sépare Israël et la bande de Gaza. Des dates clés sont projetées sur le mur, dont celle des derniers combats sanglants de 2014. les passions se déchaînent avec plus de vigueur que jamais. Morton Klein, président de l'Organisation sioniste d'Amérique, va jusqu'à déclarer que l'œuvre est la nuit de cristal de l'opéra, en référence aux attaques anti-juives orchestrées par les nazis en 1938 en Allemagne et en Autriche. Tant bien que mal, les représentations sont maintenues, mais les groupes de pression sont tels que la diffusion en direct dans les salles de cinéma du monde entier est annulée. John Adams fait remarquer que l'annulation de la retransmission internationale en vidéo et à la radio va bien plus loin que la question de la liberté artistique et finit par promouvoir le même type d'intolérance que les détracteurs de l'opéra prétendent empêcher. Le venin de l'intolérance semble avoir été tout puissant. Et 23 ans après la création de son opéra, John Adams ne comprend toujours pas. Ce que l'opéra a à dire vaut la peine d'être entendu. La mort de Klinghoffer est tout sauf un opéra terroriste et antisémite. Le contexte géopolitique et la multiplication des revendications communautaires n'arrangent rien. Et plus encore qu'à sa création, la mort de Klinghoffer est devenue un opéra brûlot aux États-Unis. Le projet était sans doute trop altruiste, trop ambitieux, trop naïf. Ironie du sort, lorsqu'une version filmée de l'opéra est présentée au Festival du film palestinien, on dit que la mort de Klinghoffer n'est pas montrable en raison du caractère anti-palestinien et pro-juif. Oui, vous avez bien entendu, un opéra anti-palestinien et pro-juif. Les mêmes critiques, mais venues du camp adverse.
France Musique. Quel scandale, Jérémy Rousseau.
L'Amérique contre Adams, mais avec la mort de Klinghoffer, Short Ride in a Fast Machine et les Charman Dances, c'est tous avec Adams.
Thank you.
Nous avons entendu les Chairman Dances, Short Ride in a Fast Machine et des extraits de La mort de Klinghoffer de John Adams. Tous les extraits et les détails sont à retrouver sur francemusique.fr. C'était Quel scandale ? Aujourd'hui, l'Amérique contre Adams. Une émission de Jérémy Rousseau réalisée par Claire Lagarde et préparée par Marion Guillemet avec la collaboration de Laure-Hélène Dufournier. Prise de son et mixage, Dofar Guérid et Jason Taous. Quel scandale est à réécouter et à podcaster sur francemusique.fr. Au programme samedi prochain, Gesualdo, compositeur assassin.
À réécouter sur francemusique.fr.